Éric Bataillon.
Bonjour. Alors que la guerre civile en Syrie est entrée dans sa cinquième année, près de 4 millions de Syriens ont pris le chemin de l'exil. Parmi eux, plusieurs centaines de milliers vivent dans des camps en Jordanie ou au Liban, des camps officiels ou informels, dans lesquels une vie tente de s'organiser. C'est ce que nous dira le géographe suisse Lucas Hoche, auteur d'une enquête sur le sujet. Des réfugiés, il y en a aussi en Turquie. Anand Loher nous parlera notamment des enfants de confession chrétienne qui ont quitté la Syrie ou l'Irak sous la pression des groupes armés islamistes et se retrouvent dans un centre à Istanbul. À suivre également un reportage de Michel Paul à Jérusalem sur la communauté des ultra-orthodoxes et un autre d'Alexandre Bouchianti au Caire sur l'islamologue égyptien réformateur Islam Behri.
Orient Hebdo sur RFI.
Depuis le début de la guerre civile en Syrie, une partie non négligeable de la population a quitté le pays pour se réfugier dans des pays voisins, dans des camps en général, notamment en Jordanie et au Liban. Des zones qui finissent par s'organiser en territoires autonomes et administrés, sorte d'enclaves dans les pays d'accueil. Lucas Hoche, bonjour.
Bonjour.
Géographe suisse, vous êtes chercheur associé à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, et votre recherche porte actuellement sur les mobilités en période de crise. Cette migration des populations syriennes vers les camps libanais ou jordaniens est-elle aléatoire ou obéit-elle au contraire à une certaine logique ?
Je pense qu'elle obéit à deux logiques principales, qui sont d'une part la logique des personnes, c'est-à-dire des gens qui se déplacent, et il faut voir que souvent les gens se déplacent en fonction de stratégie, c'est-à-dire pour atteindre un objectif qui peut être soit de se rétablir dans une zone plus sécurisée, ou alors des gens qui ont perdu leur moyen de survie et qui vont le chercher ailleurs, et certaines de ces personnes, donc décide pour cela de se rendre dans un camp où ils pourront trouver cette possibilité de recommencer leur vie. Donc, je pense que ça, c'est une des logiques. L'autre, c'est bien sûr la logique des pays hôtes aussi, qui vont choisir soit de répondre à ces mouvements de personnes par la mise en place de camps ou non. Et là, par exemple, dans le cas de la crise syrienne et des populations syriennes qui se déplacent, on a, par exemple, deux exemples très différents. D'un côté, la Jordanie et de l'autre le Liban, avec la Jordanie qui a décidé de mettre en place des camps très importants, presque des petites villes qui se mettent en place avec une très grande densité de population.
Ce qui n'est pas le cas au Liban.
Ce qui n'est pas le cas au Liban. Le Liban a eu comme politique justement de ne pas mettre en place de camps officiels, même s'il y a des regroupements plus ou moins informels de populations syriennes qui se sont mis en place.
Est-ce que cette migration est définitive? Certains réfugiés que vous avez rencontrés affirment qu'ils ont encore une activité dans le pays d'origine.
Oui, alors là je pense, et peut-être là il ne faut pas seulement penser aux personnes qui vont se rendre dans les camps de réfugiés, mais plus généralement aux personnes qui se déplacent dans la situation de crise, parce que finalement ce n'est pas l'ensemble de la population qui va dans les camps, mais d'autres personnes se disséminent dans les espaces urbains, dans les grands centres urbains, dans les petites villes.
Donc là, proportion à peu près.
Par exemple, en Jordanie, je crois qu'on est entre 20 et 30% des réfugiés enregistrés, donc auprès du HCR qui sont dans les camps de réfugiés, et le reste est disséminé dans la ville. Et donc, parmi ces personnes, donc ces réfugiés et ces migrants forcés qui ne s'enregistrent aussi pas comme réfugiés, je pense que beaucoup ne vont pas d'un point A à un point B et s'arrêtent, mais il y a vraiment la mise en place de stratégies implique de pouvoir continuer à se déplacer. Et je dirais même que pour certaines personnes, ce qui devient important, pas pour la totalité, mais disons le refuge n'est plus trouvé forcément dans un lieu, mais dans la possibilité de continuer à se déplacer. Dans le cas de la crise syrienne, on a eu pendant les premières années plutôt une politique de portes ouvertes où les gens pouvaient continuer à circuler, par exemple en Jordanie, au Liban, de façon assez facile, mais depuis 2013 en Jordanie, plus récemment fin 2014, début 2015 au Liban, on a une espèce de mise en place de politique plus d'immobilisation des personnes dans certains espaces qui entravent un peu ces mouvements et ces nécessités de pouvoir continuer à se déplacer.
Lorsque les camps se constituent, comment s'organise la vie à l'intérieur intramuros ?
Là, je pense qu'il y a à nouveau deux niveaux. Il y a une organisation des camps qui est faite par les États hôtes et les organisations internationales qui vont décider de la façon dont ils vont organiser l'espace. Et ensuite, il y a l'organisation qui est faite par les gens qui seront dans le camp, qui vont peut-être se regrouper par origine, dans certains endroits des camps, qui vont mettre en place certaines activités comme des marchés, des activités économiques ou d'autres services.
Est-ce que toutes les classes sociales issues du pays d'origine sont représentées dans ces camps ?
Bon, ce qu'il faut voir, c'est souvent aussi avec les conflits, on a souvent un déclassement de certaines personnes, donc certaines personnes qui pouvaient peut-être se situer à un niveau intermédiaire et qui vont dans la société, qui vont perdre leur travail, leurs activités économiques et qui vont se retrouver déclassées. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir un mélange de ce fait dans les camps de réfugiés. Après, ça dépend aussi de savoir est-ce que le camp se situe dans un pays comme en Jordanie, où les gens sont plus ou moins forcés d'aller dans un camp s'ils n'ont pas un sponsor qui peut les accueillir. Donc là, on a peut-être un plus grand mélange de population. Après, c'est vrai que souvent, les gens qui ne sont pas forcés de vivre dans un camp, en général, ne vont pas forcément se rendre dans un camp. Donc, on a vraiment des situations qui peuvent être très variées et de ce fait, quand même, une certaine mixité qui peut exister dans l'espace des camps.
Diriez-vous que ces camps ont une vocation à durer dans le temps et parfois même à s'intégrer dans les villes ou près des villes, devenir des quartiers finalement des villes auprès desquelles ils sont installés?
Là, je pense que il faut voir si, par exemple, on prend le cas de la Jordanie, on voit que les camps de réfugiés ont été installés plutôt dans des régions périphériques, dans des régions déjà assez près de la frontière syrienne et donc pas de forcément des grands centres urbains. Donc là, je pense que il n'y a pas forcément une volonté que ces espaces deviennent des quartiers comme ont pu le devenir presque certains camps de réfugiés palestiniens qui ont été mis en place aux abords des grands centres urbains, que ça soit Beyrouth ou Amman, mais vraiment été installé de façon plus isolée. Alors ça peut être dans une volonté plus de développement de ces régions peut-être périphériques, parce que c'est clair qu'avec l'installation d'un camp, on a un développement des infrastructures qui doit se mettre en place, et peut-être que ces espaces pourront devenir en sorte de nouvelles petites villes, mais c'est aussi des espaces qui pourront peut-être dans le futur être réaffecté à une autre utilisation.
Donc. Oui, pas seulement habité par des Syriens, puisque un certain nombre d'entre eux ont vocation quand même à rentrer dans leur pays une fois le conflit terminé.
Voilà, exactement. Donc, certains camps, par exemple, aussi les camps informels au Liban pourraient très bien être démantelés assez rapidement, et par exemple les camps en Jordanie réaffectés à une autre utilisation, mais c'est aussi des espaces qui peuvent, comme d'autres exemples ont montré, rester dans la durée avec des populations déplacées des fois sur une certaine longue durée.
Merci Lucas Hoche. Je rappelle que vous êtes géographe suisse et que votre recherche actuelle porte sur les mobilités en période de crise.
Merci beaucoup.
Les réfugiés syriens ou irakiens sont recueillis parfois par des congrégations religieuses. C'est le cas à Istanbul, où une petite école accueille temporairement quelques 300 filles et garçons de familles qui ont fui leur pays en guerre. Enfants ou adolescents, ils y retrouvent un peu de joie et une « normalité » entre guillemets, que beaucoup n'ont jamais connue. La correspondante d'Accent d'Europe en Turquie, Anand Loer, a rendu visite à cette école un jour de kermesse.
Manal, un Irakien aux grands yeux bleus, a tout perdu sauf l'essentiel, son épouse et ses quatre enfants. Ce catholique chaldéen a grandi à Mossoul, dans le nord de l'Irak. En 2006, un groupe de radicaux islamistes assassine son père dans sa maison. L'année suivante, c'est son cousin, un prêtre, qui est tué à la sortie de l'église. Première fuite, direction Karakoch, la plus grande ville chrétienne d'Irak. En août 2014, le groupe État islamique s'en empare. La famille de Manal s'enfuit une nouvelle fois, d'abord vers Erbil, au Kurdistan d'Irak, puis vers Istanbul, en Turquie.
Nous sommes fatigués de l'Irak. Nous avons fui notre maison 4 fois en 6 ans. Il y a toujours eu la guerre là-bas, contre l'Iran, puis contre le Koweït, puis les États-Unis, et dernièrement Daesh. C'est très dur pour tous les Irakiens, mais en particulier pour les chrétiens. Ils veulent nous tuer, prendre tout ce qu'on a. Nous n'avons pas d'avenir en Irak.
Les deux aînés de Manal sont scolarisés depuis quelques semaines dans une école du centre d'Istanbul, gérée par la congrégation des Salésiens de Don Bosco. Fondée il y a 20 ans, l'école a toujours accueilli de jeunes réfugiés, mais jamais autant qu'aujourd'hui. Ils sont plus de 300. Des chrétiens d'Irak surtout, mais aussi de Syrie, et plus seulement chrétiens d'ailleurs. Une cinquantaine de familles musulmanes y scolarisent aussi leurs enfants. Les cours sont en anglais puisque tous ces élèves attendent un visa vers les États-Unis, le Canada, l'Australie ou des pays d'Europe. Et cette attente est longue, parfois des mois, plus souvent des années. Alors le père Andrés, directeur de l'établissement, tient beaucoup aux jours de kermesse comme aujourd'hui.
Beaucoup de ces enfants n'ont pas été à l'école depuis des années. Ici, c'est une sorte de petit paradis, c'est ce que disent les parents. Ils voient leurs enfants qui se comportent comme des enfants, qui chantent, qui dansent, qui jouent, qui sourient. Nous devons insuffler en eux l'esprit de l'avenir, de l'optimisme. C'est pourquoi, lors d'occasions comme aujourd'hui, les parents prennent plein de photos. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu leurs enfants aussi heureux.
Ce sont les enseignants, eux-mêmes des réfugiés en attente de visa, qui préparent les leçons, souvent en traduisant les programmes irakiens. Et pour le père Andrés, cet endroit est plus qu'une école.
C'est une sorte de thérapie collective. J'ai vu un garçon qui au début ne parlait pas du tout. Il restait seul et ne cessait de tirer dans le vide. Pan, 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 comme ça. Il n'avait pas d'amis, personne. Mais ce garçon, petit à petit, a commencé à changer, à parler à d'autres. Et maintenant, c'est un enfant tout à fait normal.
Avant l'invasion américaine de 2003, plus d'un million de chrétiens vivaient en Irak. Après 10 années de violence et de guerre, il n'en reste pas plus de 400 000.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous prenons maintenant la direction de Jérusalem pour retrouver Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Cette semaine, vous avez choisi de nous parler d'un courant du judaïsme dont on parle peu, mais qui a pourtant une grande influence en Israël et pas seulement sur le plan religieux. Alors, qui sont vraiment les ultra-orthodoxes, Michel ?
En hébreu, on les appelle les Haredim, littéralement ceux qui craignent Dieu. On les trouve principalement à New York. Ils sont fortement implantés en Israël, notamment dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem et à Bnei Brak, une banlieue de Tel Aviv. Et il existe en Israël des villes ultra-orthodoxes. Mais il y a aussi d'importantes communautés en Ukraine, en Belgique. Eric, les ultra-orthodoxes sont contre le monde moderne. Ils se méfient des innovations sociales. Mais derrière cette appellation se cache en fait une quantité de groupes et de sectes hétéroclites au possible. Pour eux, la seule source de pouvoir, ce sont leurs rabbins, ce qui provoque souvent des tensions avec les autorités laïques, particulièrement en Israël, où ils représentent environ 15% de la population.
Des ultra-orthodoxes qui, dans leur majorité, s'opposent au sionisme.
Une situation complexe qui a quelque peu évolué ces dernières années. On peut dire que dans leur majorité, leur immense majorité, la position des divers groupes de cette tendance du judaïsme va de l'assionisme passif à l'antisionisme pur et simple. Les sectes les plus extrémistes étant les chassidim de Satmar et surtout les Naturei Karta, les gardiens de la cité en araméen, qui siègent au Parlement palestinien et entretiennent d'étroites relations avec quiconque s'oppose à Israël, notamment l'Iran. Un des problèmes classiques, c'est le refus des ultra-orthodoxes d'effectuer un service militaire. Une loi a été adoptée pour la conscription des jeunes Haredim, mais la conjoncture politique actuelle ne va pas permettre de la mettre en application. Il y a des députés ultra-orthodoxes, mais pas de ministres, seulement des vice-ministres. Eric, lorsqu'à la Knesset, on entonne la Hatikva, l'hymne national israélien aux paroles très laïques, eh bien, comme par hasard, ces députés ne se trouvent plus dans l'hémicycle.
Et quelle est leur idéologie, leur façon de vivre, leur judaïsme au quotidien ?
Jusqu'au boutiste. Dat Torah et Emuna Batorah, le texte de la Bible, de la Torah, mais aussi la foi dans les sages, les docteurs de la loi, ce sont les deux principes fondamentaux des ultra-orthodoxes, et c'est une des raisons pour lesquelles ils s'opposent de façon acharnée à la rédaction d'une constitution en Israël. Ils essaient de respecter au maximum les 613 commandements du Pentateuque, et pour une partie d'entre eux, du moins, la Shoah est une punition divine contre le mouvement sioniste. Mais contrairement aux Amish, aux États-Unis, ils circulent en voiture, prennent l'avion et ils utilisent l'électricité. Et bien sûr, pas la télévision.
Néanmoins, Michel, vous le disiez à l'instant, c'est un monde finalement très hétéroclite.
Il suffit de se promener dans le quartier de Mea Shearim, le quartier des 100 portes à Jérusalem, pour comprendre la diversité, d'abord au niveau vestimentaire, on les appelle les hommes en noir. Certains se vêtissent comme en Pologne au milieu du siècle dernier. Étonnant, par une journée de canicule, de les voir porter de longs bas, des redingotes et des toques de fourrure. Et bien sûr, les papillotes. Mais l'œil exercé discerne de nombreuses différences entre Hassidim et Mitnagdim, Sépharades et Ashkenaz, et d'autres groupuscules. Même chose pour les femmes qui portent une perruque ou un fichu sur la tête. Et le tout s'organise autour des cours des yeshivot, les instituts d'études talmudiques, souvent opposés les uns aux autres. La police doit parfois intervenir pour séparer les disciples des divers rabbins.
Et ce monde est figé ou est-il en évolution?
Dans leur grande majorité, ils ne travaillent pas. Les charedim sont rémunérés par les yeshivot où ils étudient. Ils vivent souvent sous le seuil de la pauvreté, avec des familles nombreuses. Plus de 10 enfants souvent. Alors oui, Eric, on discerne de nouvelles tendances. Ils cherchent à travailler à l'extérieur de leur milieu. Et aussi, certains d'entre eux acceptent de servir dans Tzal, l'armée israélienne.
S'ouvrir au monde, mais le plus lentement possible. Merci Michel. Autre univers religieux, cette fois au Caire, où nous attend Alexandre Boutchanti. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, vous avez choisi de nous parler d'Islam Beiri, un islamologue égyptien réformateur dont le procès pour mépris de l'islam vient de s'ouvrir ce jeudi. Islam Beiri expliquait sa pensée 3 fois par semaine dans un programme diffusé par une chaîne de télévision privée, un programme qui déplaisait à la grande mosquée Al-Azhar, une des plus hautes autorités de l'islam sunnite.
Il y a un résultat immédiat. La chaîne Al-Qahira al-Nas a arrêté le programme d'Islam Beiri. Mais il n'y a pas que l'Azhar qui en veut à Islam Beiri. Beiri fait l'objet d'une véritable chasse aux sorcières de la part des islamistes, mais aussi des conservateurs. Il lui reproche sa remise en question radicale de la théologie musulmane. Alors selon lui, les premiers exégètes du Coran, des hadiths et de la sunna, les dires et les actes du prophète, ont dévoyé l'islam en confondant le religieux et le séculier pour des raisons personnelles ou politiques. Il appelle à une remise à plat de l'islam et à une réinterprétation des textes sacrés basés sur la raison et non sur ce qu'en ont dit les théologiens des premiers siècles de l'islam.
C'est en quelque sorte, Alexandre, une remise en question de tous les dogmes.
Oui, et ce n'est pas la première fois que cela a lieu en islam. Les Mu'tazalites l'avaient déjà fait dès le second siècle de l'Égypte, à la fin de la période Omeyyade et surtout durant le califat abbasside. Leur credo était « la raison passe avant la tradition », une école qui avait ensuite été combattue pour revenir avec les réformateurs de la fin du XIXe siècle avec Gamal Eddin El-Afghani et le cheikh Mohamed Abdo. Ce dernier, retour d'une bourse en France, avait dit « la justice étant le fondement de l'islam, j'ai vu en France un islam sans musulmans et à mon retour en Égypte, j'ai vu des musulmans sans islam ». Mais cette école moderniste a été marginalisée après le boom pétrolier des années 70 et la pensée wahhabite fondamentaliste qui s'est répandue dans le monde arabe et musulman au gré des pétrodollars.
Alexandre, comment réagit l'opinion publique?
Une bonne partie de l'opinion est conservatrice de nature. Les propos d'Islam Beiri l'a choqué, mais le programme était très suivi, comme le prouvaient les intermèdes publicitaires. Si beaucoup le vouent aux gémonies, Islam Beiri a aussi ses fidèles et ses défenseurs qui ont lancé un hashtag en sa faveur sur Twitter. Par contre, la plupart des intellectuels ont pris leur distance. Ils reprochent à Beiri ce qu'ils appellent la violence de ses propos.
Et que risque finalement Islam Beiri?
Juridiquement, de 6 mois à 5 années de prison, conformément à la loi contre le mépris des religions de 1982. Une loi qui était destinée à défendre les minorités religieuses contre les agressions verbales des islamistes et qui s'est retournée pour être utilisée par les islamistes contre tous ceux qui divergeaient avec leur manière de penser. Mais il y a plus grave. La poursuite d'Islam Beiri en justice risque de donner des idées aux extrémistes. L'écrivain Farag Foda, qui pourfendait les islamistes dans les années 90, a été descendu à la Kalachnikov par un extrémiste après avoir été attaqué par Al-Azhar.
Merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.